Salut tout le monde, c'est Enzo, ravi de vous retrouver pour le dernier numéro de Pleine Balle de cette année 2025. Ça y est, Noël arrive à grands pas et avec lui, c'est le livre de 2025 qu'on va bientôt refermer. Et en cette période faste, c'est toute l'équipe de Pleine Balle qui vous offre en cadeau un joli programme. Évidemment, une large partie de l'émission sera consacrée à l'Open de Caen qui s'est déroulé en début de semaine. On va revenir sur les sacres de Quentin Alice face à Hugo Gaston chez les messieurs et de Clara Tauson face à Ophélie Boulet chez les dames, sans oublier les finales 3e série et même un petit débat suite aux performances discutables des plus grosses têtes de série dans ce tournoi. Et en fin d'émission, nous n'oublierons pas la partie internationale avec la surprise cette semaine, la fin du duo Alcaraz-Ferrero et nos top and flop de la saison 2025. Qui a tenu son rang? Qui a déçu? Vous le saurez un peu plus tard. Pour une dernière fois cette année, on sort la raquette, on fait son grip au millimètre, pleine balle. C'est parti!
Silence, double play.
On a une période où on joue moins bien parce qu'on réalise. Et là, j'étais vraiment sur un nuage pendant 3 jours.
That's good stuff. All out of tech from Federer. Et ce soir en studio, c'est une vraie table de fête au grand complet, prête à festoyer autour de la balle jaune. Je salue tout d'abord notre Père Noël. Il sillonne la région avec sa hotte à la recherche du meilleur vin chaud, un passe-temps qui ne l'empêche pas de faire sa liste de cadeaux lui aussi. Cette année, il a commandé un exemplaire spécial Richard Gasquet du calendrier des dieux du stade pour admirer son idole tout au long de l'année. C'est Richard, comment ça va?
Ah mais ça va bien, écoute, c'est vrai que les vins chauds en ce moment, ça fait du bien. Ça réchauffe, bien. Même s'il fait pas froid. Mais un petit vin chaud quand il fait chaud, ça passe toujours bien aussi.
Ça passe tout le temps.
Ouais, toujours.
Ça passe tout le temps. Et face à moi, le lutin farceur de la bande, jamais avare d'une boutade, d'une facétie, il ne rate jamais une occasion de nous faire rire en studio comme en dehors. C'est tout à fait le genre de petit malin qui s'enfile tout le calendrier de l'Avent en une après-midi. Et quand on lui demande pourquoi il a fait ça, bah il répond que le chocolat.
C'est un banger.
C'est Simon. Comment ça va?
Il est utile cet enregistrement.
Il est utile, bah oui, on l'a. Émile l'a fait, faut bien qu'on s'en serve. Hein.
On recycle tout ici.
Ah bah écoute.
Ah magnifique.
Ça va, bah Simon, ça va, et vous, comment vous allez après cet Open de Caen magnifique?
Ça va super.
Ah, on est en pleine forme.
Non, en pleine forme.
Bourre là, écoute.
Évidemment.
On est à quelques jours de Noël en plus, moi je suis un petit peu excité
oui.
Quand même. Hein.
Comment ça?
Moi t'es un grand enfant en fait.
Je suis un grand enfant, ouais.
Qui boit du vin chaud.
Qui boit du vin chaud. Mais pas trop chaud parce que ça brûle.
Voilà, faut pas.
Et le cidre chaud, on en pense quoi?
Ah, le cidre chaud. Et le poiré chaud.
Oh, j'aime bien.
Ouais, ouais, mais toi, tu bois tout, toi. Je t'ai croisé l'autre soir sur le port à 2h du mat, là.
Bah, je t'ai croisé sur le port à 2h du mat aussi, quelque part.
C'est pas faux. C'est
à l'époque, un partout.
Mais moi, j'ai pas 40 ans.
T'as combien?
Mais là, je ne sais pas.
Et on salue aussi Émile, évidemment, l'incarnation de la magie.
En parlant de pocheton, bah, faut saluer Émile.
Alors, lui, ça, on l'a trouvé dans l'eau du port. C'est autre chose encore.
Avec t'as vu comment bouée. Il te présente, c'est moche, hein. C'est pas beau Emile, hein. Franchement.
Ah, comme il peut pas répondre, on se
notre
permet.
Notre magicien, évidemment, la technique. Bref, c'est parti, hein. Puis passons ces considérations gastronomiques et entrons sans plus tarder dans notre page Normandie avec le point d'orgue de l'année tennis dans la région. L'Open de Caen, bien sûr, 19e du nom. Cette édition 2025, elle nous a réservé du beau spectacle sur le court du Palais des Sports. On l'avait dit il y a 15 jours, le plateau, il faisait saliver hein, sur le papier, avec notamment... Exactement, comme ça. Magnifique.
C'est pas moi.
Magnifique.
C'est Richie.
C'est oui, c'est Richie. Bang. Je crois que c'était Simon. Non, c'est Richie. Franchement, magnifique. Ouais. Tu le salives très bien, si ouais. Richard.
Oh, bah, il y a des années d'expérience.
Je vois ça.
Comme imitation, moi, je peux éternuer, si vous voulez.
Voilà, salive, j'aime bien. Moi, je préfère, perso.
Mais... Ah, ok, ah, ouais, je ne relèverai pas.
Vous en faites ce que vous voulez, cette info. Bref. Alors, au départ, il y avait notamment Musetti, Fokina, Davidovic Fokina ou encore Clara Tauson chez les femmes. À noter tout de même 2 forfaits avant le tournoi. Pas des moindres, hein, quand même. Benjamin Bonzi, d'abord remplacé par Quentin Alice. Et surtout, Loïs Boisson, la demi-finaliste de Roland-Garros, blessée, qui a privilégié sa préparation pour la tournée australienne, remplacée par Anna Blinkova, 62e mondiale. C'est pas mal non plus pour une remplaçante.
C'est correct. Tout à fait. Ouais.
C'est correct. Alors, sur le terrain, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, chez les messieurs, c'est l'invité de dernière minute qui s'est mué en trouble fête, puisque c'est Quentin Alice qui a soulevé le trophée mercredi soir face à Hugo Gaston dans une finale 100% française. Pas de Musetti, pas de Davidovic Fokina en finale, on va y revenir. Un succès bleu-blanc-rouge dans la continuité du triomphe d'Hugo Humbert l'an dernier. Et un sacré parcours pour Quentin Alice qui s'est payé les têtes de Lorenzo Sonego, 39e en quart de finale, Davidovich Fokina donc en demi-finale, 14e mondial, et donc Hugo Gaston pour finir le travail dans une finale qu'il a survolée, victoire 6-1, 6-4 en moins d'une heure. C'était vraiment impressionnant. Je ne sais pas ce que... Là, ça fait deux jours, mais c'était incroyable.
Est-ce qu'on s'en est remis ? Non, ce qui était vraiment impressionnant, c'est le 5-0 ou le 5-1 en 13 minutes.
Ouais, 5-0, il y avait 5-0.
Oui, et puis on a compté le nombre de points. Oui. Gaston a mis 2 points au bout de 5 jeux.
C'était hyper compliqué.
Truc de fou, ça a été d'une rapidité, ça. Et puis même lui, je pense que c'était le premier surpris, hein, je pense, Hugo Gaston, que ça aille aussi vite contre lui. Mais non, non, je pense que Quentin Alice, ça nous a montré qu'il pouvait vraiment, vraiment, vraiment jouer à très, très haut niveau. Et ouais, il a joué, alors, il est 91e, Quentin Alice. Ouais. Il jouait facilement top 30 hein, top sur 30, ce match-là, ouais. Sans aucun problème. Hein.
Il servait super bien.
Il faisait pas de faute, de toute façon.
Ah, il était clairement ouais, sur un nuage. Hein. Tout ce qu'il tentait, c'était...
Que ce soit en retour... de service.
C'était fou, ouais.
Même quand l'échange, là où Quentin Alice il a un peu plus de mal, c'est quand l'échange dure, et ben là quand il y avait plus de 6 coups, 6 frappes, il arrivait quand même à lâcher un gros coup droit, un gros revers.
Il n'y a pas souvent eu plus de 6 frappes aussi, hein, faut le dire.
C'est vrai.
C'était souvent.
C'est vrai qu'au premier set, il n'y en a pas eu beaucoup.
Non, c'est vrai, ça a été très vite. Et puis voilà, sur ses jeux de service, bah, c'est lui qui était à la baguette. Et puis sur les jeux de retour, il agressait hyper vite dans l'échange Hugo Gaston, parfois dès le retour, ou parfois dès le deuxième coup de raquette. Enfin voilà, Hugo Gaston qui n'a jamais eu le temps vraiment de se régler, qui n'a jamais eu le temps de se mettre dans l'échange. Non mais voilà, c'était vraiment, moi j'étais assez bluffé quand même par la performance de Quentin Alice.
Bluffant.
Après, Hugo Gaston, ce qui lui manquait, c'était par exemple un gros service pour s'offrir des balles faciles, notamment en seconde ou des trucs comme ça. Parce que là, il n'avait pas forcément le service pour vraiment gêner Quentin Alice. Il s'est pris des mines en retour. C'est pour ça que ça allait aussi vite.
Ouais, de la puissance, il lui a manqué ça. Ouais. C'est vrai qu'on le sentait, nous, depuis les gradins, on le voyait, on le constatait. Et donc, ouais, un très très beau succès pour Quentin Alice, qui était donc très heureux de goûter de nouveau aux joies d'un titre. Ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas remporté un titre, il l'a dit dans son
discours. Bah oui, c'est ce qu'il a dit dans son discours, qui était un discours assez sympa. C'est vrai qu'il n'est pas très expansif, hein, notre ami Quentin
Alice.
C'est
pas plus expansif.
C'est ce qu'il a dit, mais il avait l'air d'être particulièrement touché quand même par cette victoire-là, à Caen. Mm. Voilà, moi j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui cette semaine, et je lui ai dit un peu sur le ton de la boutade, parce que c'était mardi, donc c'était avant sa demi-finale
contre
Fokina, et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, bah, mais c'est peut-être pas un vrai tournoi ATP, mais si jamais t'arrives à aller chercher le titre et tout, donc tentais déjà qu'il était assez motivé, et déjà dans sa réponse, j'ai senti que si jamais il allait au bout, bah, c'est pas un vrai titre, mais ça compte pour lui quand même. Hein.
Bah, surtout quand on voit les joueurs qu'il a battus,
bah, oui.
Pour le coup.
Ah bah oui, il a pas battu n'importe qui. Mais c'est ce qu'il a expliqué aussi, c'est que là, cette année, lui a quasiment 30 ans, très bientôt en tout cas, il cherche vraiment à aller soulever un titre sur le circuit ATP. Alors des titres de challenger, il en a déjà gagné, mais un vrai titre sur le circuit ATP, c'est vraiment ce qu'il aimerait avoir cette année, donc on lui souhaite.
N'en dis pas trop.
Et bien justement, transition parfaite, puisqu'on est allé recueillir son ressenti d'après-match à Quentin Alice. Donc il savourait aussi le travail qu'il avait fourni pour en arriver là. Et donc, il faisait part aussi de ses objectifs pour la saison 2026. On écoute Quentin Alice.
Mes objectifs, ouais, comme je l'ai dit, c'est d'essayer de gagner un titre sur le circuit ATP et d'essayer de dépasser mon meilleur classement. Donc voilà un peu les deux objectifs principaux de l'année prochaine.
Aujourd'hui, on a encore vu un gros niveau au service. On le sait, c'est un de tes gros points forts, mais là, il y a eu un travail particulier là-dessus ou c'est là vraiment trois exceptionnels jours?
Ouais, on a pas mal bossé le service ces 15 derniers jours, donc c'était vraiment un axe de travail. Après, je sais que voilà, sur des surfaces rapides en indoor, c'est plus à mon avantage. Maintenant, voilà, j'ai très bien servi, il faudra être capable de le reproduire le plus souvent possible.
Est-ce que tu vas essayer aussi d'aller peut-être gratter des résultats sur d'autres surfaces? Le dur indoor, tu l'as dit, c'est un peu ta tasse de thé, mais d'autres surfaces aussi peut-être un peu. Qu'est-ce que comment tu vas le travailler ça?
Ouais, le but c'est de faire des résultats partout. Après, forcément que sur des surfaces un peu plus lentes, ce sera moins avantage. Mais le but, voilà, c'est d'essayer d'avoir une grosse qualité de première balle et après de faire le max. Mais voilà, on va déjà faire chaque chose en son temps. On va commencer par l'Australie.
Quentin Alice donc très satisfait après son beau parcours, on le comprend, lui, on l'a dit, il est 91e mondial en ce moment même. Il est donc ambitieux pour 2026, et un autre joueur ambitieux, c'est son adversaire en finale, Hugo Gaston. Malgré la déception d'une finale rapidement pliée, on l'a dit, il tirait du positif de cette demi-semaine cannaise, notamment avec son succès face à Musetti en demi. Il est 97e lui au classement PIF aujourd'hui, et après une saison... ça marche toujours. Hein, ça,
mais j'adore le classement PIF.
Et après une saison 2025 un peu tumultueuse, hein, il a vivoté entre la 80e et la 120e place mondiale. Lui aussi, il se livre sur ses ambitions pour la prochaine saison, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne s'en cache pas. Écoutez.
Non, bah, honnêtement, très confiant parce que je fais énormément d'efforts à l'entraînement, sur le terrain, dans la salle de gym. On bosse beaucoup, on passe beaucoup de temps avec mon équipe, avec Tristan qui m'entraîne, avec Franck, mon préparateur physique aussi. Donc, on sait ce qu'on a à faire, on donne le max et on arrivera en Australie prêt, ça c'est sûr. Après, on peut pas savoir comment ça va se passer, mais en tout cas, on aura fait le maximum dans notre préparation. Et je sais que ça va être une belle année. Voilà, je pense que j'ai pas envie de mettre des bâtons dans les roues, mais je pense que ça va être une de mes plus belles années parce que je me sens vraiment bien dans mon jeu, dans ma tête, physiquement. Voilà, je pense que j'ai jamais été aussi bien. Donc, ça donne envie de commencer et j'ai hâte. Le classement, évidemment, c'est essayer de rentrer dans le top 50 et arrêter de tout le temps être 95, 97 deux semaines avant le cut pour l'Australie. L'objectif, c'est de rentrer dans le top 50 dans un court moyen terme parce que je sais que j'ai le niveau pour y être. Voilà, c'est pas être prétentieux, c'est juste que j'ai confiance en moi, en mon jeu, en mon équipe. Je sais qu'on peut y arriver, qu'il y a encore énormément de domaines dans lesquels je peux progresser. Et ensuite, ça sera step by step. Voilà, une fois que je serai 50, c'est rentrer dans les 40 et ainsi de suite. Mais voilà, je vais pas vous dire que j'ai envie d'être numéro 1 mondial. C'est évidemment très compliqué, mais je vais pas me fixer limite. Je vais essayer de monter progressivement à mon chemin et bien s'entraîner et faire le maximum.
Très ambitieux, hein, Hugo Gaston, mais il a raison après cette belle perf à l'Open de Caen. Et donc, bon, on a commencé à en parler un peu pour Quentin Alice, mais jusqu'où ils peuvent aller, selon vous, ces deux joueurs en 2026, Quentin Alice et Hugo Gaston?
Bah, Quentin Alice, on sait qu'il a déjà été top 50.
Ouais.
Hein, il y a quelques mois seulement, il était 46e
c'est ça.
Au mois de juin. Donc, et là, le niveau qu'il a produit là à Caen, pour moi, on est à peu près dans les clous de ce classement, hein, dans le top 40, top 50. Donc non, à mon avis, il doit pouvoir remonter assez vite. Après, c'est des joueurs quand même qui sont... Enfin, je pense à Quentin Alice qui manque parfois un peu de régularité, mais bon, il prend tellement de risques. Voilà, c'est ce profil de joueur très offensif, qui cherche toujours à agresser. Donc quand il se sent bien la balle, et voilà, ça peut faire très mal, comme ça a été le cas cette semaine, et comme ça a été le cas aussi au printemps dernier, ce qui lui a permis de grimper jusqu'à ce 46e rang. Mais voilà, il faut voir un peu comment ça va évoluer, il ne faut pas qu'il ait de petits pépins, il ne faut pas qu'il ait un petit trouble de confiance, ça joue peut-être à peu de choses, mais en tout cas, s'il reste sur cette dynamique, moi, je ne vois pas pourquoi il ne remonterait pas très vite au classement.
Et puis ça va se jouer aussi, je pense, sur un tournoi, un petit peu comme MPT Pericard, comme tu le dis, c'est un joueur qui a un jeu hyper à risque, mais s'il sent bien le truc et qu'il est sur, par exemple, comme ils ont joué sur l'Open de Caen, sur un tournoi de Durin d'or, là, il peut aller chercher très très haut, et pourquoi pas, justement, il le disait, un titre ATP 250. Ça peut être intéressant.
Mais pourquoi pas? Après, ça peut être en France, hein, qu'il aime bien quand même jouer en France, Quentin Alice. On en a quelques-uns des ATP 250 en France. Bon, on a pu le Moselle Open.
Ah, ça, c'est pas
voilà,
possible.
Bon,
l'Open de Metz de la Moselle Open.
Metz.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Et voilà. D'ailleurs, Enzo me signalait il y a très peu de temps que Quentin Alice faisait partie des derniers lauréats. Il fait partie, vu que.
De l'histoire de l'Open.
Ils sont pas beaucoup, il y en a trois. Il y a un vainqueur simple, il y a deux vainqueurs doubles. Quentin Alice fait partie de ces vainqueurs en double.
Et oui, c'est le dernier vainqueur du double. Simon, je ne te l'apprends pas, évidemment.
Alors, je me le suis fait tatouer, cette stade, donc pas la peine de me le rappeler.
Et je sais où.
Où, du coup?
Bas du dos.
Ah, ouais.
Et Alice, je vous mettrai une photo sur Instagram. Suivez-nous sur Plein de Balles, d'ailleurs.
Évidemment.
Voilà, c'est pour voir des photos à Paul Dion. Moi, je m'abonne pour 4 fois.
C'est le calendrier de l'avant-pédale.
On met des photos de tennis, ça marche pas. Bah voilà, c'est bah, bon, on a compris.
Il nous faut des
photos
de tennis.
Ah, de tennis, d'accord.
Oui, évidemment.
On va changer de lettre et ça va buzzer.
On va rester là-dessus, hein, sur ce beau calendrier de l'avant made in Plein de Balles. Mais bref, oui, non, en tout cas, deux joueurs qui ont bien perf cette semaine. Et je pense, oui, je partage cet avis, Richie, je pense qu'ils peuvent bien marcher aussi en 2026. Gaston est vraiment très, 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 très confiant, on l'a entendu dans cet extrait, qui dit que ça va être une des meilleures saisons de sa carrière. Il se sent bien. Écoute, on lui souhaite, hein, franchement.
Non, mais il a été très, très bon, Hugo Gaston, quand même. Là,
puis il est super jeune, encore.
Il est super jeune.
Il n'a que 25 ans.
Il a 25 ans, oui, il est dans la fleur de l'âge.
Il a la fleur de l'âge, exactement.
Non, c'est plus un petit espoir. C'est vrai qu'Hugo Gaston, ça fait quand même quelques années qu'on en parle comme un bon petit joueur jeune, etc. Bon, il n'est plus si jeune.
C'est
on aimerait bien
qu'il
perce vraiment pour de bon, quoi. Qu'il grimpe, voilà. Mais ouais, ça va peut-être venir. Mais c'est vrai que là, en tout cas, son niveau de jeu, notamment contre Musetti, on va certainement en reparler, j'imagine, Enzo.
Tout à fait.
Mais on parlera de Musetti, mais voilà, le niveau de jeu d'Hugo Gaston contre Musetti, voilà, il n'y avait rien acheté, quoi. Tout passait.
Il a une main quand même, une palette technique, une palette de coups qui est beaucoup plus variée, par exemple, que Quentin Alice. Et quand il peut développer son jeu et qu'il ne se fait pas massacrer au service et en retour, c'est quand même impressionnant.
Après, voilà, la finale nous a quand même montré aussi que bon, il y avait des failles. Il y avait des failles chez Lou Gaston et que quand il était agressé comme ça par des joueurs, bah, il avait beau avoir sa main, il avait beau avoir son petit jeu, il avait beau avoir son regard, son placement, etc. Bah, ça suffit
son
pas. Quoi.
Mais ça suffit pas, non. Il est pris de vitesse, non, mais c'est clair.
Ça suffit pas, malheureusement. Ça suffit. En plus,
après, peut-être la surface l'a pas aidé non plus. On peut se dire que sur terre battue, ça peut changer.
Ouais, pourtant sur dur, il est quand même pas mauvais hein, parce qu'il a pris quelques titres en
challenger.
En challenger, ouais.
Mmh.
Donc
dans ces conditions-là, ouais, c'est vrai.
Il est quand même tombé sur un très très bon Quentin Alice aussi.
Évidemment, un monstrueux Quentin Alice. Donc voilà, il a rien pu faire en finale, mais cette finale, elle a suivi ce match donc face à Mousseti. Tu y as fait référence et on va en reparler justement de Mousseti. Et donc, on l'a dit, hein, cet Open de Caen, sur le papier, il y avait de très très gros noms. Si Clara Tauson a, elle, tenu son rang, Simon, tu vas y revenir juste après. Mais chez les messieurs, bah, le bilan, il est quand même beaucoup plus mitigé. C'est bien simple, les trois membres du top 40 présents au départ ont tous été éliminés dès leur entrée en lice. Alors, pour Sonego et pour Fokina, la note, elle est un peu adoucie par le fait qu'ils soient tombés donc, contre le futur vainqueur, Quentin Alice. En plus de cela, dans un gros combat à chaque fois, en 3-7. Par contre, la performance de Lorenzo Mousseti en demi mardi soir a fait un peu jaser. Lourde défaite pour le numéro 8 mondial. 6-2, 6-0 contre Hugo Gaston en une cinquantaine de minutes. Alors si l'honnêteté nous pousse d'un côté à saluer le grand match du Toulousain comme on l'a fait, de l'autre, il faut bien dire qu'on a été un peu interloqué par le match de l'Italien et la joie que se faisait le public du Palais des Sports d'admirer son jeu léché s'est très vite dissipée et a même laissé place à quelques sifflets à la fin de la rencontre. Qu'est-ce qu'on en pense de cette j'ai dit des gros noms au global. Évidemment, c'est Mousseti un peu qui occupe l'espace de ce débat, de cette petite question. Qu'est-ce qu'on en a pensé un peu des pertes des gros noms là qu'on a eu sur cet Open de Caen? C'est un peu décevant quand même au final.
Décevant, je sais pas, parce que pour le coup, enfin en tout cas moi j'ai trouvé que Sonego et même Fokina, ils perdaient à la régulière contre Alice. Il a fait un super match dans les deux cas. Même Fokina, on l'a senti un petit peu énervé de perdre contre Aralis, donc il en avait quelque chose à faire, quoi. Il était déçu peut-être de son jeu, etc. Mais du coup, en tout cas, moi, pour ces deux têtes de série, Sonego et Fokina, ils ont fait leur match. Ils n'ont peut-être pas forcément joué aussi bien qu'ils le souhaitaient, mais ils sont tombés sur du gros Alice. Après, c'est vrai que Mousseti, là, ça pose un peu plus question.
Ouais, bah c'est ça. Après, un mec comme Sonego, je pense que lui, en plus, il vient dans un cadre vraiment de préparation, quoi. Il est là pour se préparer, il est là pour se frotter à des joueurs. Donc, bah voilà, il est tombé contre un très très bon Quentin Alice. Ça a été un très beau match, d'ailleurs.
En plus.
Super agréable à suivre. Davidovic, oui, je pense aussi qu'il a fait son match sérieusement aussi. Pas de souci là-dessus. Et là aussi, c'était un très beau match. non, Mousseti, effectivement. Mousseti, il y a. On a entendu pas mal de choses depuis 2-3 jours ici à Caen. Oui, je pense que tout le monde est un petit peu déçu. On reste un peu sur notre faim, en fait. C'est ça, on reste sur notre faim. On a voulu le voir, on l'a vu. Le public était très nombreux à attendre, notamment ce membre du top 10 qui était au Masters il y a quelques semaines. Voilà, un mec, effectivement, un esthète du jeu, avec son revers à une main... Magnificent, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était un premier set, à mon avis, plutôt correct quand même.
En vrai, on 6-2. Je trouve que ça a été dur un petit peu parce que sur le premier set, le 6-2, il y a quand même Gaston qui joue super bien.
Gaston
il rentre
bien.
Beaucoup de ouais. choses, beaucoup d'amorti. Il a vraiment tactiquement très bien joué contre Mousseti qui était un peu perdu. Mais je pense que ce qui fait vraiment jaser, c'est un peu le manque de réaction où on aurait pu se dire que Mousseti aurait peut-être plus en donner quoi sur le deuxième. Bah, il prend 6-0.
Oui, non, mais en fait, fin du premier set, tu peux te dire légitimement, bon, bah, le gars, il est 8e mondial, ouais, il va certainement essayer de monter un peu le rythme, le tempo,
ouais,
le
ça.
Niveau, il va peut-être changer 2-3 trucs, il va pas. Voilà, enfin, tu te dis, le mec, il va s'adapter, quoi. S'il est 8e mondial, c'est que tactiquement, déjà, il est prêt à faire quelques petites modifs, etc., etc. Le problème, c'est que le début du deuxième a été un petit peu accroché, et ça a vite fait 2-0 pour Gaston, et tu sentais qu'à 2-0, ouais. Le match était fini. Et là, plus de jambes. En tout cas, il mettait plus les jambes. Et puis, il a commencé à arroser à gauche, à droite, une faute par-ci, une faute par-là. Et puis, il n'y avait plus d'échange. Et puis, tu sentais qu'il n'était plus. Alors, nous, les fans de tennis, on suit un peu le tennis, on l'a vite remarqué. Peut-être que dans le public, ils l'ont un petit peu moins remarqué pour certains, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a très vite remarqué que voilà, les échanges, il n'y en avait plus et le score a déroulé. Et ça fait 6-0. Et voilà, je pense que c'est surtout ça en fait, qui est un peu marquant à la fois pour le public il serait pris 6-2, 6-2 ou 6-2, 6-3, peut-être que le public n'aurait pas été aussi dur à la fin. C'est le 6-0 qui fait mal.
S'il y a eu un 6-2 comme dans le premier set, en fait, où on voit un Gaston qui continue de bien jouer, qui continue de bien maîtriser Musetti, on aurait pu se dire, bon bah là, Musetti, il n'a pas eu de bol. Il est tombé sur un gros Gaston. En plus, c'est un match d'exhibition, donc il ne s'est pas non plus donné à fond. Mais là, il y avait un vrai côté, je jette l'éponge, quoi. Oh, j'ai pas de solution, j'ai pas envie de me donner à fond non plus.
Ouais. Après, je sais pas comment était, je sais pas comment a été négociée la venue de Musetti, mais en tout cas, les organisateurs, eux, ils voient pas ça comme un tournoi vraiment d'exhibition. Ils aiment pas trop ce terme.
Oui.
C'est un tournoi préparatoire au début de saison, et je pense que quand les joueurs viennent aujourd'hui, ils sont briefés là-dessus. Donc Musetti, il a pas montré en tout cas le joueur qui était prêt à jouer un match de préparation. Il l'a pris un peu par-dessus la jambe. En tout cas, son deuxième set, la fin du deuxième set, il a laissé aller le truc complètement. Bon, c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Après, sur un tel plateau, Musetti, c'était quand même la tête d'affiche. Alors là, je rentre un peu dans un autre discours, mais on peut légitimement penser que c'est peut-être quand même un joueur qui a peut-être coûté le plus de sous au tournoi, à l'organisation. Voilà, ce serait normal. Et c'est vrai que c'est le seul qui a peut-être un peu laissé passer un peu la fin de match comme ça. Ouais, bon, c'est un peu dommage.
C'est un peu dommage.
C'est vrai. Surtout qu'il était très très attendu, quoi.
Il était hyper attendu. Alors bon, ça n'a pas été un forfait de dernière minute, ça n'a pas été un abandon. Les spectateurs l'ont vu jouer. On a pu profiter quand même de son jeu, hein, de son revers, de ses coups. Enfin, il a sorti quand même 2-3 coups assez remarquables.
Ouais, ça n'a pas fait un très beau match.
On a eu un beau premier set. Moi, c'est ce que je retiens en tout cas. On a eu un beau premier set. On aurait envie d'en avoir un deuxième.
De plus, voilà. C'est ça.
Peut-être un troisième.
Quelque part, oui.
C'est clair. Non, c'est clair que ça. Comme tu le dis, elle a laissé sur notre fin.
Elle
nous a laissé sur notre fin cette performance. Après, voilà, c'est le tennis. Je pense que les organisateurs, d'ailleurs, ils le disaient, hein, ça fait partie du risque aussi de ce genre de tournoi. C'est que des fois, bah voilà, les joueurs viennent avec un degré de préparation aussi plus ou moins avancé.
Ouais.
Un degré d'exigence, ouais, par rapport à leur jeu.
Et c'est ça que j'ai trouvé cool quand même, c'est que dans la communication du tournoi, voilà, ils s'en sont pas cachés, comme tu dis.
Oui, voilà. Ça, c'est très, très
ils
bien,
ont un petit
d'accord.
peu regretté, ils partageaient un peu le sentiment du public. Ils étaient eux-mêmes un petit peu déçus de cette fin de match. Donc c'est bien, au moins, il n'y a pas eu de langue de bois.
Non, c'est clair.
Et ça, je trouve ça cool. Ouais.
Je suis tout à fait d'accord.
Et puis quelque part, on a eu une finale franco-française.
C'est sympa aussi.
Oui, c'était sympa aussi.
Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire globalement sur le cas, le dossier entre guillemets Musetti. Et on va avancer dans cette.
Je pense qu'il ne va pas revenir à Caen.
Tu penses?
Ben ou alors peut-être l'année prochaine.
Au tournoi de Cormel-le-Royal.
Mais il ne va pas. je rigole. Mais vas-y.
Et on va continuer pas. Évidemment de parler de cet Open de Caen. Et on passe donc désormais au tournoi féminin avec toi, Simon.
Et oui, durant les deux premiers jours de l'Open de Caen, le tennis féminin professionnel était lui aussi au rendez-vous en tête d'affiche de cet Open de Caen, ou plutôt de l'Open féminin du Calvados. Deux joueuses du top 100 étaient présentes, la tête de série numéro 1, Clara Towson, danoise, 12e mondiale. Une joueuse qui a vraiment confirmé cette année en 2025.
Towson en danois, qui veut dire ?
Alors, qui veut dire enceinte.
Bluetooth
portative. Attention.
Ah oui, non, faut pas l'oublier.
Voilà. Bon, okay. Bref.
Excuse-moi, je vais te couper. Je sais que tu parles couramment danois, donc c'était important de le dire.
Je parle globalement couramment. Donc elle est après des victoires de prestige face à qui? Bah face à Sabalenka, Swiatek, Madison Keys et des parcours eux aussi plus qu'honorables avec une demi et une finale dans les WTA 1000 de Montréal et Dubaï ainsi qu'un 8e à Wimbledon. Bref, cette année 2025, c'est donc l'année de confirmation entre guillemets pour la joueuse danoise de 22 ans qui avait remporté l'Open d'Australie 2019 en junior. Et face à cette première tête de série, une Française en demi-finale, Lucie Nguyen Tan, 59e meilleure joueuse française. La joueuse de 22 ans s'est extirpée des qualifications de l'Open de Caen pour pouvoir jouer sur le magnifique court du Palais des Sports lors de ses demi-finales. Il y avait certes beaucoup de classements d'écart entre ces deux joueuses. Pour autant, le match a tenu toutes ses promesses avec un match bien accroché comme on aime. Lucie Nguyen Tan crée la première surprise de cet Open de Caen en remportant logiquement le premier set 6-2 avant que Clara Towson fasse respecter la logique en remportant le second et le troisième set 6-3, 6-4. Enzo, Richard, les deux joueuses nous ont offert un beau match, même si un peu bizarre.
Bah, cette petite alerte physique,
ouais, évidemment,
pour Clara enceinte portative. voilà, effectivement.
Je suis pas sûr non plus.
T'es pas sûr. Au milieu du deuxième set, c'est ça, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est à 4-3.
4-3, c'est ça. Voilà. 4-3, 35, elle s'arrête complètement de jouer, quoi.
Et voilà, et là on se dit, c'est le drame. Premier drame, on a déjà perdu Loïs Boisson, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, intervention salvatrice du kiné.
Du kiné,
Antoine, qui est arrivé sur le cours. Et voilà, qui a fait marcher la magie de la kinésithérapie.
Avec ses mains.
Et voilà, qui a massé la zone en question. Et voilà, et puis elle est repartie pour un tour. Et ça lui a permis de s'adjuger le deuxième set. Et après, bon, le troisième set, ça a été...
Vraie force mentale, pour le coup, Blinkova. Puisque... Non, Blinkova... Non, Clara Tauson, je confonds. Oui. Clara Tauson, puisque son coach lui avait dit « Abandonne, va pas te blesser avant la tournée océanique. » Elle a dit quoi ?« Non, je continue, mon grand. » Elle a bien fait. Elle a bien fait, puisqu'elle est passée en finale. Mais du coup, elle jouait un peu plus en marchant. Mais ça, ouais, ça a quand même suffi pour passer face à Nguyen Tan. En tout cas, elle a mis du temps à se mettre dans le match.
Ouais, elle a mis un peu de temps à se mettre dedans. Et puis, bon, bah, mais au final, voilà, comme tu l'as dit, ça, elle a bien fait de persévérer et voilà, d'aller au bout de ce match parce qu'elle a quand même réussi à l'emporter.
En tout cas, pour Lucie Nguyen Tan, c'est quand même cool. Elle qui était issue des qualifs de l'Open de Caen, elle a pu faire un vrai match.
Bah oui, au match, ouais. Elle a failli être à ça de créer la surprise. Quoi. Enfin,
je pense elle était cool. Très proche.
Très proche.
Mais c'est assez courant, en tout cas, chez les filles, tous les ans à l'Open.
Ouais.
On a des jolies surprises qui peuvent se produire. Donc c'est sympa, ça.
En tout cas, dans l'autre demi de cet Open féminin du Calvados, c'est Anna Blinkova, 62e mondiale, qui a affronté la jeune grande espoir française, Ophélie Boulet, 17 ans, championne de France des 17-18 ans. Retrouvons tout de suite Ophélie Boulet, qui nous a partagé son état d'esprit avant sa rencontre face donc à Anna Blinkova.
Ça va, pour l'instant, un peu stressée, mais moins que ce que je pensais. En tout cas, c'est une superbe expérience, je suis hyper contente d'être ici, quoi.
Et donc tu vas affronter une joueuse qui est dans le top 70, Anna Blinkova. Tu devais jouer à la base Loïs Boisson, malheureusement elle ne sera pas ici. Peut-être un petit peu déçue de ne pas la jouer, mais je pense que c'est quand même une superbe opportunité de jouer une joueuse aussi bien classée.
Ouais, bah, d'un certain côté, oui, déçue de ne pas jouer Loïs pour l'expérience, pour ce qu'elle a fait à Roland, pour tout ce qu'elle a réalisé cette année. Mais ça reste la 64e mondiale. Donc pour moi, ça reste une très très bonne joueuse de tennis et beaucoup d'expérience à prendre de ce match, de choses à voir. Donc pas vraiment déçue, non, quand même. Bah, en fait, c'est assez excitant d'une certaine manière. Je veux dire, pour l'instant, j'ai pas le classement qui fait que je joue des gros tournois, en tout cas sur le circuit pro. Donc c'est un petit peu un cadeau en avance, quoi. C'est-à-dire que je commence à jouer des filles du top 100 alors que moi-même j'ai pas le classement pour les jouer. Donc c'est vraiment que du bonus et puis essayer de prendre le maximum qu'il y a à prendre.
On l'a dit, du coup tu vas poursuivre cet apprentissage-là aussi du grand circuit en 2026. Quelles ambitions? Bon, c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais est-ce que tu as déjà des ambitions un petit peu pour cette première saison vraiment à fond sur le grand circuit? Est-ce que tu réfléchis déjà un petit peu à tout ça ou tu prends les choses pour l'instant comme elles viennent?
Ouais, je les prends un peu comme elles viennent. J'ai pas réellement d'objectif de classement en soi. Je pense que si en soi j'ai envie d'être top 500 pour jouer les grands chelems juniors, parce qu'on a une place réservée du coup. Mais je me mets pas de limite. Je sais que je peux gagner des matchs plus haut, donc j'irai le plus loin que je peux aller et puis continuer à gagner des titres sur les circuits futurs.
En tout cas, Ophélie peut être super fière d'elle. Elle a livré une magnifique prestation contre la joueuse russe. Victoire au forceps dans le premier set, 7-6, avant de livrer un récital à son aîné, 6-1, dans le deuxième, un set dans lequel elle a pu montrer toute sa palette technique, et notamment son magnifique revers à une main qui a régalé tout le public canet, surtout Richie, qui avait une petite larme à l'œil, il me semble. En tout cas, cette victoire contre Anna Blinkova, 62e joueuse mondiale, c'est une première victoire pour Ophélie Boulet contre une joueuse du top 100. Beau jeu, belle surprise et grosse perf. Le lendemain, place donc à la finale femme de cet Open féminin du Calvados. Si vous m'avez bien suivi, c'était Ophélie Boulet contre Clara Tauson. Une finale plus expéditive. La Danoise a fait parler sa puissance et s'est imposée sans surprise 6-3, 6-2. En tout cas, vous, qu'avez-vous pensé de ce tournoi féminin et surtout de cette Française, Ophélie Boulet?
Ah bah c'était bien de la découvrir. Mmh. Ophélie, 17 ans, et tout le monde l'a découverte hein, de toute façon. Ouais. Alors Enzo, tu l'avais déjà vu à l'œuvre.
Un petit peu.
Mais
oui.
Toi,
t'as des yeux partout.
Tu es un fin limier, toi. Ouais. Voilà, tu arpentes le secteur. Voilà. Tu l'avais vu à Granville, c'est
à
ça.
À Granville, c'est ça, oui.
Voilà. Et voilà, donc c'est bien de la découvrir, parce que je pense qu'on. Enfin, j'espère en tout cas. Qu'on va la revoir et qu'on va la voir à plus haut niveau.
Ouais, bah oui.
Cette jeune tenniswoman. Mais voilà, évidemment, moi, je me régale avec son revers. Ah, bah oui, oui. Bah oui.
Un très beau revers. Quand très ça parlons de ligne, c'est vraiment. C'est Roger, quoi. C'est ouais. Les souvenirs.
Ah non, c'est magnifique. Elle va peut-être succéder à Diane Paris.
À Diane Paris, ouais.
C'est la dernière, hein, Diane. Top 100 avec un revers à une main.
Et encore Tatiana Maria, je cherche.
Non, en française.
Ah, en française.
Française.
Ah, bah oui, en française, ouais.
En française, voilà. Donc, après, Louise Boisson a un revers chopé qui est assez sympa aussi. Hein.
Qui fait bien mal aussi, quand même.
Mais un revers frappé comme ça, ouais, c'est hyper agréable. Donc, j'ai hâte qu'elle aille dans le top 100, hâte qu'on puisse la voir dans les tableaux du Grand Chelem. Voilà.
C'est
voilà.
Tout ça, quoi. Ouais.
En espérant qu'on puisse la suivre dans ses Open, dans ses Grand Chelem juniors.
Bah, pourquoi pas, ce serait déjà une première étape sympa pour elle.
C'est sûr.
En cette saison 2026. Et donc, le public cannais, il a aussi pu découvrir un autre très jeune joueur dans le tableau masculin, cette fois, Mathis Dominck, 16 ans, et heureux élu de la Fédé pour la deuxième wildcard. Il est 134e mondial, lui, au classement junior. Et il était opposé dimanche au vainqueur des qualifs, Jürgen Briand, pour le premier match de la phase finale de l'Open de Caen. Malheureusement pour lui, il s'est incliné 6-3, 6-4, et il nous a livré une analyse plutôt lucide de cette grande découverte.
Moi, ce que je peux en dire, c'est que au début, j'étais un peu stressé. Mais finalement, j'ai eu des balles de break d'entrée, j'ai eu des occasions. Et il y a eu un moment où, dans le deuxième, je suis mené 5-1, et il se passait plus rien, mon service marchait plus, je passais plus de première et il me dominait largement. Donc j'ai essayé de me relâcher, de prendre un peu le public avec moi, j'ai essayé et ça m'a permis de me relâcher et de jouer un peu plus le jeu que j'ai joué il y a deux semaines sur mon tournoi junior. Donc ça, c'était pas loin de revenir, mais bon.
Un joueur que le public cannais a découvert, mais qui a déjà quelques faits d'armes dans sa jeune carrière. L'été dernier, du haut de ses 16 ans, il a vécu un grand moment dans sa carrière quand il a remporté son premier point ATP à Bastia dans un tournoi 25 000 $. Un premier point ATP dont il se souviendra longtemps.
Bah, c'était cet été, c'était une semaine avant mon anniv, et je joue le 300, il était 300. J'ai fait un match de dingue, surtout que... De base, à chaque fois que je m'entraînais avec lui, je prenais des tôles. Donc, à vrai dire, je ne m'y attendais pas. Déjà, quand je suis arrivé à 4-4 dans le premier, j'étais déjà super content. Et après, j'ai kiffé. J'ai essayé de faire durer le plus possible. C'est pour ça que j'ai joué 3h45 aussi. Donc, non, c'était quand même une super expérience.
Un vrai marathon, en fait. Vraiment. Et puis, le cadeau d'anniversaire, c'est pas dégueu.
Ouais, comme cadeau, c'était pas trop mal. Bon, le lendemain, c'était un peu plus dur, par contre, physiquement. Mais non, c'était vraiment super.
3h45, c'était quoi le score en
3h45? 7-6, 3-6, 7-6. Voilà. Non. Et 9-7 dans le tie-break du 3ème. 9-7
d'accord.
Ouais, je crois. Je mène 6-3. Je tombe et je joue avec. Je vais pour m'essuyer les mains et je prends une raquette. Sauf que je prends une raquette cassée. Du coup, je joue une balle de match avec mon cordage cassé. Et on se retrouve à tourner. Je perds le point, 7-6. Et ça va, j'ai fait deux bons services et je finis par finir. Mais bon, ça aurait pu être plus compliqué mentalement. Enfin.
Et t'as foutu le bazar dans la prog, en fait, avec un match comme ça.
Ouais, je pense. Mais il n'y avait pas tant de matchs, en vrai. Il y avait trois matchs max. J'étais deuxième route, donc il devait rester qu'un match. Donc ça va.
Un sacré souvenir, quand même, de gagner son premier point ATP, de toute façon.
Il était deuxième route.
Un deuxième route.
Voilà, donc tout s'est bien passé. Ouais, non, un beau souvenir, carrément.
Incroyable. Vous vous en souvenez, vous, de votre premier point ATP?
Moi, non. Non c'était un peu. C'était il y a trop longtemps, moi. Non.
C'était il y a deux ans à Saint-Pétersbourg. Anciennement Stalingrad. Moi, j'ai joué. J'ai gagné mon premier point ATP. Ouais, un match. Bah, lui, c'était 3 heures. Moi, c'était 7 heures de match. Et à la douane russe, ils m'ont dit rends le point et je l'ai rendu, donc je suis revenu sans.
Ah, du coup, tu ne l'as plus.
Ah, ben j'ai pas pu passer avec.
Ah, là, terrible, c'est terrible.
Tu l'avais gardé sur toi?
Bah, oui, enfin, ils m'ont dit tiens, ton point TP.
Tiens, prends-le.
Tu l'avais dans la poche.
C'est super bien d'ailleurs, un point TP. Super.
Ouais, non, c'est un sacré souvenir pour Mathis Domingue, qui donc faisait partie également de ce plateau de l'Open de Caen. On poursuit à présent notre page Open de Caen avec un autre moment très attendu. Une tradition du tournoi, ce sont les finales amateurs jouées sur le court des pros.
Oui, parce que bon, les pros, ça va bien. Deux minutes, il est temps maintenant de parler de ceux qui nous comprennent, ceux qui ont ressenti ce que tout le monde aurait pu ressentir, ceux qui n'ont pas de sponsor, pas de cordeur, pas de points ATP, mais un cœur, un mérite, un courage peut-être plus grand que celui des joueurs pros. Parlons des finales amateurs 3e série qui avaient lieu sur le court du Palais des Sports. Après les matchs pro. Alors, petit rappel tout de même du pourquoi, comment ces 4 joueurs et joueuses se sont retrouvés à jouer leur finale sur le magnifique court du Palais des Sports. On l'a dit, mais aussi avec des arbitres, des juges de ligne, des rabasseurs de balles, bref, même des commentateurs.
Bon, surtout.
Mais surtout. Bah, toute la panoplie pour jouer un match dans des conditions littéralement professionnelles. Cette année, c'était les finales 3e série qui se jouaient, donc des joueurs allant de 30 à 15 ans. Lors du tournoi de qualification de l'Open de Caen, tous les joueurs de 3e série qui ont gagné leur match contre des joueurs allant jusqu'à 15-1 et qui ont fini par perdre uniquement face à des joueurs de 2e série, ils sont donc invaincus contre des joueurs de 3e série. Eh bien, tous ces joueurs et joueuses invaincus ont été remis dans un nouveau tournoi, celui des finales 3e série. Et après des quarts et des demi qui se jouaient au TC Caen, la finale, on l'a dit, se jouait au Palais des Sports lors de l'Open de Caen. Et le dimanche, la salle cannaise a vibré avec un affrontement franco-français normo-normand entre Enzo Ramone, 16 ans, du TC Caen, et Théophile Tison, 20 ans, tout droit venu du pays de la pluie et du pas de soleil plus du vent, aussi appelé Cherbourg. Deux joueurs, tous les deux, 15-1, et une finale qui a tourné à l'avantage du plus vieux avec une victoire au super tie-break, 7-6, 6-2, 2-6, 10-3.
Combien ? C'est quoi ?
J'ai pas suivi le score. T'as pas suivi le score ?
Non, j'ai pas suivi.
Je le redis. En plus, je l'ai mal dit. Donc c'est bien de me corriger.
On est en direct ou pas ?
6-7. Premier set gagné par Enzo Ramone. 7-6. Le deuxième... Non, je refais. Donc on a dit, Théophile Tison perd le premier set 6-7. Donc gagné par Enzo 7-6.
Ok.
Mais Enzo... Le finaliste, pas celui qui parle de Penmal.
Non, pas moi.
Le deuxième de 6, donc gagné par Théophile 6-2. Mais ils sont 15-1.
Oui.
Ça, faut le savoir.
C'est important.
Et le super tie-break est remporté à la fin. Énorme bravo à Enzo et Théophile.
Pas le score. C'est combien le super tie-break?
10-3.
Donc on a dit 6-7, 6-2, 10-3.
6-7.
C'est à peu près ça?
2-6. Et un super tie-break à la fin.
Ça marche toujours pas.
Bon, ok. Allez, 7-6-7, 6-2, 10-3 dans le super tie-break. Énorme bravo à Enzo et Théophile qui ont sorti un gros niveau de jeu dès le début du match. Comme quoi, la pression, c'est pas pour tout le monde. Moi, par exemple, la pression, je la subis. Je dis n'importe quoi, mais eux, ils arrivent et arrivent à très bien jouer avec notamment un coup droit. Là, super beau. Enzo, bon perdant, a même pris le temps d'accompagner Théophile en conf de match pour débriefer cette rencontre.
Alors, je vais pas mentir, complètement cramé. Vraiment, heureusement que c'est terminé sur ce dernier point parce que j'ai crampé sur la dernière frappe. Et bon, après, pour la célébration, je suis allé à fond, je crampais plus bizarrement. Mais non, vraiment un match très dur. Enzo très solide dans le premier set. Je donnais beaucoup. J'étais pas relâché, surtout en coup droit. Et après, deuxième, j'ai réussi vraiment à me régler un peu plus, à prendre vraiment la balle devant, à bien la traverser. Et où j'ai pu justement lui faire un peu plus mal en coup droit. J'arrivais plus à diriger le jeu. Et Enzo a fait un poil plus de fautes. Parce que j'essaie de varier un peu plus. Et puis bah, forcément, physiquement, c'est avec la tension, etc., on est vachement crispé. Et non, vraiment, et puis le super tie-break, alors c'est exceptionnel parce que quart de finale, je gagne le super tie-break. Demi-finale, je gagne le super tie-break. Et la finale, je gagne le super tie-break. C'est énorme, c'est juste énorme. Et en fait, bizarrement, j'étais confiant en partant dans le super tie-break parce que je me suis dit, je l'ai déjà fait deux fois. Et donc, non, c'était vraiment j'ai pris tellement de plaisir sur le terrain, vraiment exceptionnel.
Et donc, ton adversaire, tu l'as dit, il s'est quand même très très bien accroché dans cette finale. Enzo, du coup, comment tu le sens là? Comment tu l'as senti ce match? Comment tu t'es adapté au jeu de Théophile? Est-ce que c'était conforme à ce qu'il disait il y a 15 jours ou est-ce que c'était une marmule?
C'était une sacrée marmule. Surtout en coup droit au deuxième set, il a fait des bonnes attaques. Après, je pouvais pas monter à la volée contre son jeu. Il m'empêchait de monter à la volée. C'était vraiment un jeu du fond. Il y avait des beaux échanges et après, il a su remporter au deuxième set puis au super tie-break.
C'est sûr que, en plus, le pire dans tout ça, c'est que la salle était 90% vide. Alors que, sur le terrain, je sais pas comment tu l'as ressenti, mais des clubs normaux, on n'a pas trop d'ambiance, on est vraiment dans notre bulle. Et là, d'avoir vraiment des gens derrière nous, chaque point, c'est bête, mais même si tu fais une faute, derrière, ça encourage ton adversaire, ça applaudit ton adversaire. Et puis, j'ai réussi un petit peu à me nourrir de ça, de ce que le public donnait. Et un grand merci à mes amis qui sont venus, je pense... Enzo dira la même chose de tous ses amis, surtout que il vient de Caen. Il est à domicile. Donc vraiment une ambiance de folie et puis un cadre exceptionnel. On va pas se mentir.
Enzo, il y avait clairement un cop avec toute la. Il y a une super pancarte. Allez Enzo, c'est pareil, c'était stylé quoi.
Ah oui, la banderole géante, c'était vraiment. Ouais. En plus j'avais tout un groupe de supporters là dans le coin. Ils arrêtaient pas de chanter, c'était super bien. Ça motivait à chaque point. Bon, j'espère que Théophile, t'es pas trop gêné. Les ramasseurs, ça fait quand même bizarre parce que, entre deux services par exemple, quand on fait un service faute, moi j'ai l'habitude d'enchaîner. Et du coup, faut attendre un petit peu et après, c'est cool parce que les ramasseurs en plus c'était mes copains.
J'ai eu une chance, c'est que ramasseur de balle, j'étais entre guillemets un poil habitué parce qu'on a un challenger à Cherbourg et que plusieurs fois je suis allé jouer pour entraîner les ramasseurs. Et ce qui fait qu'en fait, j'étais pas tant gêné que ça, j'étais vachement habitué et c'est un plaisir monumental. Franchement, d'avoir les ramasseurs. L'arbitre, j'ai failli me prendre un warning au bout de deux jeux parce que j'ai dit deux gros mots. Premier changement de côté, l'arbitre qui me dit attention à ton vocabulaire. Le jeu d'après, je redis une bêtise. J'ai failli me prendre un warning. Et puis, il y en a un troisième qui a failli sortir et j'ai crié à la place. Mais non, franchement, c'est incroyable.
Allez, encore bravo à Théophile et Enzo. On rappelle le score, Théophile s'est imposé 6-7, 6-2 et 10-3 dans le super tie break. Yes, il y en a un autre à dire, puisque dimanche c'était la finale amateur homme et mardi c'était la finale amateur dame. Une finale qui a opposé Marine Noesser, 22 ans, licenciée au TC Caen et 15 ans, contre Zia Cardin, 16 ans, licenciée à Lusso-Mondeville, elle 15-2. Caen contre Mondeville, c'était un véritable derby qui avait lieu au Palais des Sports, et les deux joueuses nous ont offert un match à suspense. Tarantino hésite d'ailleurs même à en faire un film. Score final 7-6, 6-3, 3-2, 15-1, 30-30. Jouez mesdames. Et non, ça a fait 7-6, 3-6, 17 dans le super tie break.
Premier coup, bravo. Ah oui.
Encore un match à suspense. Donc pour Marine Noesser qui remporte donc cette finale, troisième série. Immense bravo à toutes les deux. Et après sa finale, Marine nous a donné ses impressions à elle, elle qui a vécu le match de l'intérieur.
J'ai pour habitude de dire que normalement celui qui gagne le tie break après ça déroule pour lui. Bon, c'est pas trop ce qui s'est passé. tie-break premier set, break des breaks je crois, où juste on gagne à chaque fois nos jeux de service, enfin, je sais plus trop. Et deuxième set, je sens que elle accélère beaucoup plus ses balles et elle reprend beaucoup confiance. Et moi j'ai une petite baisse de régime, donc elle passe vite devant. Et Zia a beaucoup plus accéléré le jeu et je me retrouvais un peu plus en position de défense, qui est pas du tout ma position prédominante. Je suis plus dans l'attaque et donc vouloir taper dans toutes les balles. Donc ça me mettait dans une position de faiblesse et elle a très bien joué là-dessus. Elle a pris le dessus sur le deuxième set, je pouvais pas faire grand-chose. Et en voyant l'issue du deuxième, je me suis dit bon, on va tout jouer super tie-break, compteur à zéro. Et puis voilà, quitte à me déchirer le pied sur le terrain, quitte à ramper à cause des crampes, c'est la fin du match quoi, c'est la dernière fois que je pourrais vivre ça, donc on y va à fond, quitte à finir sur les rotules, et c'était ça mon état d'esprit pour le super tie break, et je pense que Zia aussi, d'où le 18 qui était bien accroché du coup.
Depuis les gradins, nous, on a eu la sensation qu'on était dans un match qui montait en qualité au fur et à mesure des jeux. Et du 7, toi, dans le match, tu l'as ressenti comme ça aussi?
Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Premier set, je pense que Zia avait d'accord, enfin, ça se voyait de toute façon, on était très nerveuses. Mine de rien, voilà, dans les couloirs, on est tranquille et tout, et on met un pied sur le terrain, c'est vraiment très très différent. Le terrain, il paraît vraiment énorme, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de bruit. C'est vraiment très difficile de se concentrer, les jambes en coton, enfin tout ça. Et voilà, une fois qu'on est dans le match, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, deuxième set, beaucoup plus accroché, on est vraiment... Enfin, on est bien dans le match, et voilà, Zia, elle prend dessus facilement. Et super tie-break, voilà, on était vraiment, vraiment chaud et puis on voulait gagner, ça se sentait. Enfin, on s'encourageait à chaque fois, à chaque fin de point. On essayait de... Les points devenaient de plus en plus longs, plus en plus serrés, plus en plus accrochés. Enfin, c'était vraiment... Ça montait en qualité, effectivement. C'est... Ouais, non, plutôt cool.
Marine, gagnante de cette Open de Caen, troisième série face à Zia. Alors, messieurs des pleines balles, vous en avez pensé quoi de ces belles finales amateurs? Sachant que nous, on les a vues d'en haut. Parce qu'on commentait les matchs, on peut un peu se la péter d'avoir commenté ces matchs-là.
Bah, c'était cool, franchement. C'était deux beaux matchs entre nos chers amateurs qu'on a reçus.
Bah, en tout cas, c'était des matchs serrés.
Et ouais, des matchs serrés.
Voilà, avec du suspense.
Qui ont tenu le public en haleine. Il y avait du monde en plus sur la finale féminine.
Il y avait plus de monde. Et tous les ans, il y a plus de monde pour les filles que pour les gars. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est lié à la programmation. Hein. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour les filles, souvent, il y a du monde. Donc,
c'est vrai.
Là, mardi soir, c'est vrai qu'il y avait du monde de Mondeville, il y avait du monde de Caen. C'était hyper cool.
Il y avait du monde aussi pour les hommes. Enzo, il avait vraiment ce côté où il y avait des supporters qui avaient ramené une pancarte, etc. Ah, c'était vraiment cool.
C'était rigolo.
Ah, c'était pas mal. En tout cas, voilà, moi, on apprécie toujours les voir parce qu'on s'identifie quoi, à ces joueurs amateurs. Là, on s'imagine un peu sur le court. Et c'est vrai que ça doit être fou. Ça doit être fou de se retrouver sur un court aussi grand avec autant de recul. C'est vrai que notamment pour les filles, quand elles faisaient leur cloche, là, leur grande balle bombée, heureusement qu'il y avait autant de recul. Tu fais ça sur le court numéro 2 à Cormel-le-Royal, t'es dans le grillage, quoi.
Il n'y a pas de cloche à Cormel, ça va que vite.
C'est que du slide, service volé.
Mais voilà, c'est vrai que c'était hyper intéressant à voir. Et puis, moi, ça m'a fait marrer un petit peu Marine, qui nous a dit la dernière fois qu'elle était venue ici dans ce studio. Pas de pression, pas de pression. On l'a croisée encore juste avant son match. Pas de pression, pas de pression. Bah, évidemment, tu rentres sur le court là-bas, dans le palais des sports. Bah, évidemment que la pression, à un moment donné, elle arrive.
En plus, elle te tombe dessus. Il y a vraiment la main de ramasseur de balles, il y a la musique, il y a le speed. Il y a vraiment tout, ils font tout comme les pros.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est
tout pour mettre la pression, en fait.
C'est ce qu'elle a dit après. Effectivement, tu rentres sur le terrain et puis bah, les premiers points, les premiers jeux, t'as les jambes en coton. Et voilà, je pense que c'est normal parce qu'on n'est pas habitué à tout ça. Nous, on n'est pas habitué à avoir les ramasseurs autour de nous. Et puis tu sens quand même une petite pression, mine de rien, même s'il n'y a pas grand monde. Mais voilà, ça change de cadre, tu changes de contexte. Et c'est pas pareil.
C'est pas pareil, effectivement. Et puis
conclusion.
Ouais, c'est pas pareil, c'est vrai, les gars. Franchement, c'était deux beaux matchs. Et aussi, conclusion, ça nous permet de clore cette page Open de Caen, parce que l'heure tourne quand même un petit peu. On va libérer Emile avant son grand départ pour les vacances, parce que monsieur part en vacances.
Il a un avion à 19h05.
Pas très loin en plus. Ouais, ça pourrait ça, mais bref. Non, voilà, on va clore cette page en remerciant aussi l'équipe de l'organisation de l'Open de Caen, évidemment, pour toute cette belle organisation de ce bel événement, et aussi pour nous avoir permis, donc Simon, tu y faisais référence, d'avoir pu commenter donc quatre rencontres de cette Open et de finale amateur et de finale des pros. Ça a été, je pense, une belle expérience pour nous trois. On a bien kiffé. Je m'avance, mais je pense que...
Ah non, mais tu peux parler à notre place.
Non, mais voilà, c'était cool.
C'était super cool, c'est super cool. Ça fait trois ans maintenant qu'on couvre cet événement, qu'on a la chance voilà, de participer à tout ça. Et on espère que 2026, pour la 20e édition de l'Open de Caen, on espère que Pleine Balle sera toujours de la partie, bien sûr.
Évidemment, on verra ça en 2026, mais en tout cas, voilà, encore un grand merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Alors, avant de passer à notre top flop, une info là qu'on a vue il y a une dizaine de minutes en live. Richard, tu es déjà au courant, je t'ai montré ça pendant que Simon était en train de parler tout à l'heure.
Tout à fait.
Et c'est une info triste, malheureusement, cette fin d'année 2025.
Bah, c'est surtout triste pour le revers à une main.
Pour le revers à une main, encore une fois, puisque Stan Wawrinka a annoncé sa retraite à la fin de la saison 2026.
Oui, 2026.
Voilà, la fin de la saison prochaine.
Je ne sais pas ce que c'est que cette mode.
Ouais,
Gaël, mon fils, Wawrinka, je prends ma retraite dans un an. voilà. Mais bon, après, voilà, il nous reste encore un an à savourer.
Mais voilà, c'est une annonce, malheureusement, qui vient de tomber.
Tu veux que je te le dise, moi? Tu veux que je te le dise?
Tu prends ta retraite?
Non. Oh, non,
dans 30 ans.
J'ai pas eu envie. C'est pas comme ça. Les tournois, ils mettaient un peu plus de billets pour les faire venir.
Ah, peut-être, peut-être.
Ah, tu vois clair, Simon. Tu vois
clair. Ah, putain, mais c'est la dernière fois qu'on pourra les avoir dans un tournoi. Ok, ouais. D'accord.
Mais alors, où va-t-il prendre sa retraite?
Et voilà, est-ce que ce serait pas à Caen en décembre?
Bah, chez lui,
ça pourrait être à Caen, ça peut être à Bâle.
Ah oui, non, dans quel tournoi?
Ça peut être à Bâle. Ouais, ouais.
En tout cas, voilà, on suivra ça. La dernière saison de Stan Wawrinka, donc en 2026. Et une autre info sur laquelle je voulais qu'on parle un petit peu, c'est évidemment une bombe qui a secoué le sapin de la planète tennis cette semaine. Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, c'est terminé. L'annonce a surpris tout le monde, hein, nous y compris. On dormait dans les coursifs du Palais des Sports pour être au plus près de l'action à l'Open de Caen. Puis bim, on a vu la notif sur le téléphone. Enfin, le choc, quoi. Alcaraz, Ferrero, terminé. Alors aussitôt, la question, pourquoi cette séparation brutale? Les rumeurs vont bon train, mais pour le moment, aucune justification officielle apportée par l'un et l'autre pour expliquer ce divorce fracassant annoncé sur les réseaux sociaux, hein, de chacun. Alors on va suivre ça dans les prochaines semaines pour essayer de comprendre quel caillou, quel rocher est tombé sur le duo Ferrero-Alcaraz. Ferrero-Rocher, hein, c'est la vanne. Bref, et drôle, hein, non, c'est de la merde. Mais sinon, on en pense quoi de cette fin de
cette
duo
blague,
là
bah,
non, la blague, elle est pourrie, il n'y a pas besoin de demander. Mais,
Moi, je valide la blague.
Ah, merci, Richard. Ah,
bah oui.
C'est un choc.
Et avec quoi dire, non, je...
Ouais, c'est bizarre. Bah, c'est
après, très surprenant. C'est pas une bonne saison, donc ouais, numéro 1, que... bon, d'accord. Deux titres du Grand Chelem, bon, d'accord. Son jeu a pas progressé, bon, bah, ça se comprend.
Bah, c'est vrai qu'il est sorti du top 1 mondial, là, récemment, donc pas évident à gérer.
Pas évident, ouais.
Non, mais c'est surprenant, c'est surprenant. Peut-être qu'on ne sait pas tout. Je sais pas.
Là,
ouais, moi, je suis hyper surpris.
Là, c'est très à chaud.
Bon, on sait que c'est une décision qui vient d'Alcaraz.
Évidemment, ouais. Parce que
ah, ça vient d'Alcaraz.
Ça vient d'Alcaraz parce que.
Ça vient d'Alcaraz, ça vient pas de Ferrero.
Il a l'impression que dans son jeu, avec Ferrero, il peut plus évoluer. Il a plus rien à lui apporter de plus.
Mmh. Ouais, Ferrero a dit sur ses réseaux, j'aurais aimé continuer. Donc. Insinue aussi que ça vient d'un côté plutôt.
Ah oui, non, bah,
d'un
c'est
côté,
insinue dur, même.
C'est insinue dur. Hein,
voilà. On sait que ça vient d'Alcaraz.
Ça vient d'Alcaraz.
Maintenant, pourquoi?
Ouais.
Mystère et boule de
gueule. Alors, il y a des trucs qui sortent un petit peu.
Vas-y, vas-y, dis, c'est quoi qui sort là?
C'est potin, trucs, on voilà,
allez,
potin.
Allez, on y va, on ouvre le closer, le gars là. Voilà, allez, on y va.
Tout ça. Non, alors, il y a des premières rumeurs qui commencent à sortir comme quoi Ferrero n'apprécierait pas trop que Mr. Carlos aille jouer des exhibitions un peu partout là.
Pour ça qu'il était peut-être pas à Caen d'ailleurs.
Peut-être pour ça,
à mon avis.
Ouais, voilà. Donc, alors, il y a
non,
ça.
Les gars, rien à voir.
D'un côté, il y a ça. Il y a d'autres rumeurs qui disent que. Alors, c'est la presse espagnole. La presse espagnole, El Chiringuito, tout ça, on connaît. Hein, c'est pas trop le genre
Marca,
de truc.
Marca.
Voilà, ce genre de truc. Qui dirait qu'au moment de la renégociation du contrat de Ferrero, les demandes salariales de Ferrero auraient fait péter un plomb au clan Alcaraz. Et du coup, ça aurait été. Voilà, ça aurait été finito pipo. Alors, voilà, c'est des rumeurs qui commencent à sortir.
Toi, tu lis la presse people espagnole.
Si, espagnole.
Incroyable.
Donc, on voit que son famille, c'est quand même Garcia.
Oui. À moi ou à quelqu'un? Non, moi.
À toi, Enzo
ah
Garcia.
Bon ah bah je l'apprends, tu vois. Je ne savais pas que c'était mon nom de famille, mais peut-être.
Marque.
Mais voilà, donc en tout cas.
Oui, pour ça, oui. Je crois que c'est Marque Garcia.
Oui, ça doit être ça, oui. En tout cas, voilà.
González.
Le duo, il est fini. Il n'existe plus.
Étonnant.
Étonnant. Ouais. Et puis on va voir qui va prendre à la place aussi. Parce que, est-ce qu'il y en a un de vous deux d'ailleurs, Simon, tu es au chômage, tu veux peut-être pas postuler?
Non, non. Alors d'ailleurs, j'en profite, je cherche un stage dans des boîtes d'intérim intercom pour une stage de communication si jamais vous êtes intéressé par mon profil. Le profil gauche.
On y est.
Voilà, mais, l'annonce est passée.
Mais il a encore un coach quand même, Alcaraz.
Oui, il a encore l'adjoint de Ferrero, c'est
Samuel Lopez.
Qui lui reste pour l'instant. Donc à voir avec qui fera équipe. Est-ce que c'est lui qui deviendra peut-être coach principal? On ne sait pas. On va voir ce qui va devenir de Sam. Enfin, quand même, c'est une bombe. Quoi. C'est quand même
assez incroyable. Ouais, c'est assez fou. C'est assez fou.
Voilà, c'est assez fou.
Il y a des bons coachs sur le marché.
Bien
sûr. Mais voilà.
Peut-être qu'il a appelé Rune avant pour lui dire ça se fait ou pas de dégager un coach comme ça?
Ouais.
Ouais, ça se fait. Moi, je le fais souvent.
C'est pas Pat qui va revenir dans l'histoire.
Peut-être.
Imagine. Mouratoglou avec Alcaraz. Ben disons. Quel duo de choc.
Ça serait fou, ça.
Ça serait fou. Mmh. On verra ce qu'il en adviendra de Carlos Alcaraz et de son entraîneur en 2026. Allez, pour finir l'émission, avant de se consacrer pleinement à la saison 2026, hein, qui va débuter le 2 janvier prochain avec la United Cup, jetons un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour nous remémorer quelques moments de la saison 2025 à travers nos tops et nos flops des circuits ATP et WTA. Alors, on a préparé chacun notre petite liste. Qui c'est qui veut se lancer dans ce grand moment des top flops, hein?
On en dit combien? On dit deux top.
Allez, on commence et puis on voit combien de temps ça nous prend. Puis on verra si Emile il cogne au carreau, on arrêtera.
Oui, voilà.
C'est voilà, ça, c'est ouais. Ça. Il cogne déjà. Hein. Il 10 minutes qu'il cogne.
Il gratte à la porte, là.
Il gratte à la porte. Allez, Richard, Simon, Richard, qui commence ?
Allez, moi je me lance sur un top.
Allez,
je me lance sur un top.
Vas-y.
Je vais partir sur un top féminin et Cocorico, c'est moi mon top. Mon top pour moi de l'année, c'est Loïse Boisson. Mmh. Ouais, mon top, c'est Loïse Boisson parce que le tennis féminin est en berne quand même en France en ce moment et je trouve que c'est quand même une chose bienvenue, hein, l'arrivée au premier plan de Loïse Boisson, quelqu'un qu'on attendait, quelqu'un qu'on avait un petit peu vu venir, qui était un peu dans les coulisses, on va dire, du gratin. Elle a réussi à rentrer dans le top 100 et de quelle manière, hein, avec un parcours exceptionnel à Roland-Garros cette année, on s'en rappelle tous, elle nous a fait vibrer, elle nous a fait... pleurer de joie. Non, c'était vraiment incroyable. Et voilà, je pense que toute la France s'est vraiment reconnue dans cette joueuse, a suivi ses matchs. C'est devenu une vraie star. Hein. La preuve, c'est que là, ici à Caen, tout le monde était très, 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 très déçu de ne pas l'avoir évolué sur le court. Donc, non, Loïse Boisson, merci. Merci pour cette belle année, pour ce beau parcours à Roland. Et puis, bon, maintenant, il va falloir qu'elle confirme. On va voir en 2026. Mais voilà, ça fait du bien d'avoir une joueuse française, quand même, qui joue les premiers rôles sur le circuit.
C'est clair que ça fait du bien.
C'est clair, hein? C'est clair, les gars?
C'est clair. Ouais, c'est clair. Clair.
Ouais, ça faisait combien de temps qu'il n'y a pas eu une française en demi de Roland Garros?
Wow.
Est-ce que ce ne serait pas Bartoli?
Là, c'est une colle. Ouais,
c'est une colle, là, ouais.
Française.
On va aller chercher ça. Allez, ouais,
je sais pas. Une française.
Simon, je te vois pianoter sur ton clavier.
Marion Bartoli, Wikipédia.
Allez. Bartoli, elle a fait une demi à Roland Garros?
Non, elle a fait un huitième. Une demi, elle a déjà fait une demi.
À Roland? Peut-être.
Et si c'est en 2011, je suis le boss, c'est tout, il n'y a pas à chier.
Prenez-le dans toutes vos boîtes.
Non, moi, je suis resté sur Marie Pierce en 2011.
Il y a 2011, elle est en demi.
Ouais, donc,
Si vous me trouvez la joueuse contre laquelle elle joue en demi, Marion Bartoli, en 2011.
Et quelle nationalité?
Italienne, forcément, à cette époque-là.
Schiavone.
Ouais, Francesca Schiavone.
Ah, qui a gagné le tournoi.
Qui a gagné le tournoi, juste après. En 2009. Ouais, dans ces années-là. Bon, donc, Loïse Boisson, le top de Richie.
Non, on a fait le jeu en même temps. Comme
bah
ça,
oui, voilà, on fait le quiz en même temps. Voilà, on meuble. C'est bien. Non, voilà, on joue en même temps.
Superbe.
Simon, ton top.
Top féminin.
Top féminin.
Ouais.
Anisimova.
Ouais.
Ah, moi, c'est celle qui m'a régalé cette année, l'américaine de 24 ans, avec ses deux finales. Bon, une finale où elle se fait un petit peu dérouiller 6-0-6-0 contre Swiatek en finale.
Il fallait se chauffer un peu, quoi.
Oui, voilà.
Et cette finale à l'US Open. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle a continué derrière toutes ses belles performances en atteignant. Elle a même gagné des WT à 1000 et elle a réussi à s'intégrer au Master. Elle a réussi à finir quatrième mondiale. Sachant qu'il y a Swiatek, Sabalenka et Goff qui étaient quand même des grosses joueuses aussi, qui ont fait des grosses saisons. Donc c'était hyper intéressant. Et en plus, c'est une joueuse qui avait fait une pause d'avril 2023 au début de saison 2024 parce qu'elle n'en pouvait plus du tennis. Elle a pris cette pause, grand bien lui fasse. La voilà, quatrième mondiale de 2 ans après. Donc voilà, gros top, mais je pense que c'est un top pour tout le monde.
Ouais, c'est pour ça que t'as fait une petite pause d'ailleurs là au tennis aussi.
Ouais.
C'est bon.
Alors,
je pense que l'année prochaine,
avec
ça
un
va.
Flop, je vous le dis, en flop, j'ai mis ma saison de tennis 2025. J'ai pas fait un match sur le circuit légal. La T9 est restée vide.
Ouais.
C'est un peu la honte.
Casier vierge.
Ouais. Mmh. Ouais, mais l'année prochaine, voilà, tu repars. Tu repars et tu vas crever l'écran, tu seras pas tendu, tu seras le sous-marin.
Je vais crever l'écran.
Enzo, ton top féminin?
Eh ben moi, mon top féminin, je suis parti sur une joueuse un poil moins bien classée qu'Anisimova, Belinda Bencic.
Oui, l'Helvète.
L'Helvète, tout à fait. C'est un peu la belle histoire, je trouve, qu'on retient de cette saison WTA. Parce qu'elle a commencé la saison, elle était au-delà de la 900e place mondiale. Elle a fini 11e. Franchement, bravo, parce qu'elle a repris sa carrière en fait en 2024 après sa grossesse. Elle a été maman et elle a été numéro 4.
Elle l'est toujours,
elle
maman
est
d'ailleurs.
Oui, c'est vrai qu'elle. Oui, effectivement. Elle a été quatrième mondiale à son pic avant cette pause. Et donc là, elle a été titrée à Abu Dhabi en tout début de saison, à Tokyo, là, plus vers la fin de la saison. Elle a aussi fait une demi à Wimbledon. Vraiment un grand top. Un grand top pour moi, parce que voilà, repartir comme ça après une pause pour grossesse, 900e mondiale début d'année, finir 11e. On peut dire que bravo. Chapeau. Et attention à elle en 2026, je pense qu'elle peut faire très très mal.
Ok, bah on note sur le petit calepin.
Bencic pour moi.
Très bien.
Un top masculin peut-être, si quelqu'un...
J'ai pas mis vraiment un top masculin, on va dire. Je voyais pas comment en top tu peux pas mettre Sinner ou Alcaraz. Du coup, j'ai trouvé un petit subterfuge.
Et il est malin, il est malin.
Et en top, j'ai mis la finale de Roland.
Oh, le malin.
Parce que je pense que ça a
le
été
malin.
Le match de cette saison.
Eh, t'es malin, toi.
Les gars, doucement.
Il est malin.
Il est malin.
On rappelle quand même 5h29 de jeu. Ouais. Sinner qui mène 2-7-0. Match en 5-7. Je vous dis pas le score, hein, sinon je vais planter. mais en tout cas, Alcaraz qui sauve des balles de match et qui finit par gagner. Finale magnifique. J'avais des stats. Alcaraz est seulement le troisième joueur à avoir gagné un grand chelem en ayant fait face à deux balles de match. Voilà.
Ok. Ah, niveau de jeu stratosphérique.
Ouais, non, c'était fou. C'était le match de l'année, match historique.
Mais du coup, il y a un peu le contre-coup de cette finale, c'est que maintenant, dès qu'il y a une finale Alcaraz-Sinner en grand chelem, on s'attend toujours à ce genre de match.
Ah bah ça crée des précédents, c'est le problème.
Un match ou d'anthologie à ce niveau-là. Du coup, on a tendance à être un peu déçu.
Bon après tout le temps reproduire ça, faut y aller.
Oui, on sait qu'il n'y en aura pas de sitôt, hein, des finales comme ça. On en a eu d'autres après, effectivement. On a été un peu déçus.
Des beaux matchs.
On attend un peu plus, mais.
De toute manière, l'excellence toutes les deux semaines n'existe pas, sauf chez Pleine Balle.
Oh, oh, magnifique.
Poète, malin poète. Et
Emile
poète.
Qui fait non à la fenêtre.
Un mot, Emile, là-dessus non ah, d'accord, bah, non, vraiment, il est catégorique. Bref, bah,
c'est notre premier fan. C'est...
Mais oui, il le sait. Richie, ton top, et je crois que ton top, c'est aussi le mien pour le top masculin.
C'est notre top.
Je pense, hein. Je crois.
Alexander Bublik, peut-être.
Bublik, tout à fait.
Ouais. Pour moi, c'est un vrai top de l'année, Alexander Bublik. Déjà, j'ai toujours été assez fan de ce joueur, un joueur qui rafraîchit un petit peu le circuit. Et il était quand même monté assez haut au classement. C'était un très bon joueur, mais il était redescendu. Au mois de mars dernier, il était 82e. Donc on ne l'a pas vu venir du tout. Et au fur et à mesure des mois, il est remonté, il a fait des belles perfs. Au total, 4 titres et une finale. Une finale à Dubaï, 4 titres à Hangzhou, Kitzbühel, Stadt. Et puis à Le, quand même un ATP 500.
Et ce n'est pas des titres sur des surfaces différentes à chaque fois ?
Si.
Il a été titré sur toutes les surfaces.
Ça, c'est fort.
Monsieur Bublik. Mm-hmm. Et avec tout ça, ça l'a amené aux portes du Masters. Il était 11e. Mm. Enfin, il est 11e.
Il est joli, quoi.
Donc, j'attends de voir la saison prochaine.
Il ouais.
Faudrait pas qu'il redescende 82e. Mais voilà, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Et puis, voilà, c'est un plaisir de le voir sur le court. On n'est jamais à l'abri d'une petite facétie, d'un coup de gueule, d'un éclat de rire. On s'ennuie pas avec lui.
Non, je suis d'accord. Je partage complètement ce top Alexander Bublik. Mais maintenant il faut passer au flop aussi. Parce qu'il y a du positif, mais il y a du négatif.
On se fait qu'un flop.
On peut, oui, si vous voulez.
Un petit flop.
Votre flop masculin-féminin, c'est comme vous voulez.
Masculin-féminin, flop. Ça va être rapide. Moi, j'ai mis ma grande amie Danielle Collins.
J'en ai
beaucoup parlé l'an dernier de Danoche. Danielle qui a fait une saison 2024 assez exceptionnelle.
Oui.
Elle qui avait annoncé dès le début de saison 2024, rappelez-vous qu'elle mettait un terme à sa carrière pour des raisons de santé. Elle a fait une super saison, elle a raflé des titres, elle est montée dans le top 10. Et puis, elle a dit si c'est comme ça, je continue. Hein, c'est ce qu'elle nous a dit il y a un an pile poil. Elle a continué, mais après, c'était pas la meilleure idée qu'elle ait eue, peut-être, je ne sais pas. Ou alors, peut-être qu'elle s'est dit je continue, mais je prends quand même un peu ma retraite. Elle a perdu des matchs, quoi. Donc, 15 victoires seulement cette année, alors qu'elle les a empilées l'année dernière. Donc, voilà. Elle a enchaîné des firsts, notamment cet été. Elle n'a pas rejoué depuis l'US Open. Son meilleur résultat en 2025, c'était en France, en Alsace, à Strasbourg, une demi-finale. Mais c'est tout, quoi. Et depuis le mois de septembre, elle n'a pas remis un pied sur le court. Et on se demande un peu quelle va être la suite. Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'elle va vraiment raccrocher cette année? On ne sait pas. Voilà, moi, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim, évidemment. J'aime beaucoup cette joueuse. Donc, est-ce que je la reverrai en 2026? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. La déception de Richard. Danielle Collins. Simon, pardon.
Moi, j'ai remis un fourre-tout de flop. C'est toute la next-gen où là, vraiment, ils ont été dépassés par les événements. Alors, Zverev, entre guillemets, lui, a plutôt fait une saison.
Tu le mets dans la next-gen?
Ouais, c'est cette next-gen-là, oui. Ouais, celle qui était au marketing.
C'est la middle-gen. Ouais.
Middle-gen en ce moment. Mais en tout cas, c'est tous les joueurs qu'on attendait après les Djokovic, Federer, Nadal. Donc, c'est les Medvedev, c'est les Tsitsipas.
Roublev.
Zverev, qui est là, qui est troisième mondial, mais on sent quand même que quand il joue contre Sinner et Alcaraz, il a pas le niveau, il va pas réussir à les battre. Même les runes qu'on pensait qu'il allait concurrencer les Sinner et Alcaraz, on a vu cette saison qu'ils étaient très très loin du compte.
Oui, et puis en plus Rune, on a quand même découvert son tendon d'Achille.
Oui, en plus. Bien joué.
Et Titi Pass est au-delà de la 30e mondiale.
Oui, il est loin.
En roue libre.
Il est loin.
Medvedev qui a fait une saison hyper compliquée.
Qui était un peu mieux à la fin. Moi, j'ai failli le mettre en flop, mais je l'ai laissé de côté parce que c'était mieux à la fin quand même, Medvedev. Il a remonté un peu la pente en toute fin de saison. Donc, je vais être un peu clément avec Daniil Medvedev.
Ouais, au-delà de dire next gen flop, mais c'est toutes les têtes d'affiche qu'on pensait qu'ils allaient remplacer les Federer, Nadal, Djokovic, finalement. Non. Très très loin du compte.
Eh bien moi côté flop, tu as parlé de Tsitsipas, je vais rester en Grèce avec Maria Sakkari.
Oh. Ah ouais.
Rappelez-vous de Maria Sakkari.
C'est vrai qu'il faut s'en rappeler.
Il faut s'en rappeler, ouais, c'est ça, c'est le terme.
Et alors que pourtant elle est pas très, voilà, elle a à peine 30 ans, donc elle est encore en pleine carrière, quoi.
Toute jeune.
La chute, elle est vraiment infinie pour Maria Sakkari, qui était encore top 10 début 2024. Aujourd'hui, là, elle est 52e. Et encore, c'est à peu près correct parce qu'elle a failli quitter le top 100 cette saison. J'ai regardé ça, elle a failli quitter le top 100. Elle était 90e juste après Wimbledon. C'est un naufrage. Deux victoires de suite dans un tournoi, ça devient un exploit limite pour elle. C'est très très dur, 25 victoires, 29 défaites. Donc c'est vraiment une saison difficile pour Maria Sakkari. Simon, on allait au tournoi de Rouen ensemble. Est-ce que tu t'en rappelles déjà?
Alors, c'était avant ou après les bières?
Ah, c'était avant les bières.
Ah oui.
Et ben, elle a fait partie de ce tournoi à Rouen.
On ne l'a pas vu.
On ne l'a pas vu. Parce qu'elle a évidemment perdu au premier tour. Bref, donc c'était. Ouais,
vraiment... Ah, mais les gars, faut aller voir les matchs du premier tour aussi.
Oui, non, mais d'accord. Non, mais Sakkari, voilà. On peut quand même imaginer qu'elle va peut-être un peu. Enfin, voilà, c'est une ancienne top 10, quoi. Donc bon, c'était quand même très, très compliqué, évidemment. Tsitsipas, je n'en parle même pas. On ne tire pas sur une ambulance. Ça ne se fait pas. Voilà. Bref, on avait encore beaucoup à dire, mais évidemment, on va la relâcher, Emile aussi, hein, parce que je pense qu'il s'impatiente un petit peu derrière ça.
Alors, les révélations.
Les révélations.
Donc, les révélations.
Et après,
Emile les réclame, évidemment.
Oh, allez, Emile, tu nous laisses ça.
Après, il y a une catégorie qui s'appelle l'autiel, c'est les joueurs qu'on fait.
Non, on va faire ça très vite. Hein, 19h09.
Révélation, vous avez une révélation?
Révélation, oui, pour moi, Victoria Mboko. Oui. Mboko, la canadienne, voilà, qui qu'on ne connaissait pas, effectivement, et qui est allée chercher un titre à Montréal en faisant un parcours de malade. Hein. Elle a sorti Kenin, l'ex-quatrième mondiale. Elle a sorti surtout Coco Gauff, 6-1, 6-4, bim bam boum. Rybakina en 3-7. Osaka en finale, 3-7. Mboko, voilà, la jeunesse, voilà, un nom qu'on va évidemment retenir. Deuxième titre en fin de saison à Hong Kong et ça lui a permis d'intégrer le top 20. Voilà, donc moi, ma révélation, Victoria Mboko.
Simon.
Ouais, j'ai une petite révélation comme ça qui me vient en tête. Lerner Tien, j'espère que je dis bien son nom.
Lerner Tien.
Lerner Tien, ouais. Tu l'as mis aussi.
Je l'ai mis aussi, ouais. Je l'ai mis aussi. Oh,
là. Qui est actuellement au Master Next Gen, là.
Exactement, il est en ce moment même. D'ailleurs, je crois qu'il joue sa qualif en demi en ce moment même, d'ailleurs, au moment où on se parle. Ouais, Lerner Tien, bah, je l'ai mis aussi en révélation.
20 ans, un Américain.
Ouais, un petit joueur sympa, quoi.
Et puis un Tien vaut mieux que deux tu l'auras.
Magnifique. Magnifique, Richard. Voilà, on va finir cette émission et cette année.
Dédicace à Emile.
Sur ce beau.
Son beau sourire Colgate.
Oh, bah oui, mais il est magnifique. Il brille.
Il est beau, cet homme.
Hein. Oh, il est très, très beau. Il le sait.
Il met la musique, allez, les gars.
Il est tellement bleu qu'il nous invite à nous barrer avant même qu'on le dise.
C'est comme les Césars quand c'est trop long.
Voilà, c'est ça.
On envoie la musique.
Dégagé, ce sera plus rapide. Merci à vous pour cette dernière émission de l'année 2025. On se retrouve le 16 janvier 2026.
Juste dans trop longtemps.
Ouais. Non, trop longtemps, mais ouais. Il faut qu'on recharge nos batteries aussi.
Et puis joyeux Noël.
Et joyeux Noël.
Noël.
Pas trop d'excès.
Joyeux Noël. Hein. Bon baiser de Fort-de-France. Ah ouais, oui, c'est ça. Les classiques, faut les connaître.
Les classiques de Richie. Voilà. Il nous les partage avant cette période de fête. Pas trop d'excès. Hein.
Non, fait juste gaffe, un gars. Peu, mais pas trop.
Juste un peu, mais pas trop. La bonne dose, le bon curseur. Bonne fête, merci.
Profitez
à tous,
bien,
merci
à tous.
Emile, merci Radio Phoenix. Vive le tennis.
Et à très vite.
Et à très vite.
Ciao, ciao. Allez, bisous, loulou, joyeux Noël. Jingle bells.
Vive le tennis.
Eh oui.